Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog, podcast 565, podcast d'actualité. Cette semaine, avec moi, nous avons Johnny Wan en direct de la rédaction.
Bonjour.
Comment ça va,
Avec,
Johnny?
regardez, vous le reconnaissez, lui, ou pas?
Ah ben oui, on connaît ce canapé,
Il est
effectivement.
ouais.
Et donc il est chez toi maintenant, bravo, bravo,
Exactement,
t'as réussi à le
tout à
piquer.
fait.
Bien joué, Johnny. Nous avons Philippe, qui est avec nous aussi.
Salut, en direct de chez moi, pareil.
Voilà, tout va bien?
Tout va bien, impec.
Bon, et Thomas, qui lui est vraiment en direct de la rédac, il n'a pas volé de canapé. Et est-ce que ça va, Thomas?
Bah écoute, très bien, je suis ravi de tous vous voir et de voir que Johnny ne cesse de monter en gamme dans les loots qui peut nous piquer
C'est
avec
vrai.
beaucoup de discrétion, c'est quand même assez remarquable.
C'est vrai qu'en termes de goodies, là, il a fait fort. C'est
Ouais,
Arsène Lupin.
je pense que la prochaine fois, c'est la rédac entière qu'il va falloir piquer et déplacer chez lui.
C'est possible, ça peut arriver. On va parler cette semaine de trois thèmes. Le premier thème, c'est Nier Replicant version. Ah non, je parle à citer. On va l'appeler Nier Replicant tout court, qui est donc sorti il y a quelques jours. Philippe a réalisé le test pour nous. J'ai pu y jouer quelques heures aussi. On va vous en parler tout à l'heure, évidemment. Cette semaine sort un jeu très attendu par Johnny Wan qui s'appelle
Oh là
Returnal.
là.
Et Returnal, il a pu commencer à y jouer donc avant le test, avant que le test soit disponible. On va vous faire part un petit peu de ses impressions sur la preview et il va nous montrer ses fesses toutes rouges, évidemment, de s'être fait tabasser par le jeu jusqu'ici. Et nous terminerons avec un débat, ce podcast. Le débat, ce sera autour de CD Projekt Red. Est-ce que CD Projekt Red peut se redresser après Cyberpunk 2077, on en discutera en toute fin d'émission, mais pour commencer, d'abord, comme d'habitude, avant les thèmes, il y a le win et le fail. Et le win de la semaine, Thomas, il t'a tiré une petite larme, et c'est un documentaire court qui est, mine de rien, lié aux jeux vidéo.
Et oui, tout à fait. J'avais envie de dire, c'était évident que je vous parle de la cérémonie des Oscars. Hein. Ça tombait un petit peu sous le sens qui avait lieu il y a quelques heures hein, au moment où on enregistre la cérémonie préférée de notre ami Joseph Fares, qui a donc récompensé au milieu de tout un tas de productions un court-métrage sur la résistance qui s'appelle Colette. Rien à voir avec la boutique Bobo Hipster qu'il y avait dans Paris. Non, et pourquoi on vous en parle? Eh bien parce que ce documentaire, eh bien, il était proposé dans Medal of Honor Above and Beyond. Sur Oculus, donc vous aviez des portraits comme ça se fait souvent de résistants et de combattants. Là, en l'occurrence, eh bien, c'est la dénommée Colette qui est le sujet en fait central de ce format court de 25 minutes, tout petit peu moins. Colette Marin-Catherine, en fait, qui est eh bien, une résistance nonagénaire et qui fait l'objet de ce petit film qui a été réalisé par Anthony Giacchino et produit par Alice Doyard.
Giacchino, je sais que.
Pardon.
Non, parce que comme le cinéphile en toi s'en voudra, mais c'est Anthony Giacchino.
Évidemment. Et en fait, aux côtés d'une étudiante en histoire qui s'appelle Lucie Fouble, eh bien, elle va revenir sur son histoire et pourquoi on en parle en fait. Enfin, quel est le sujet du documentaire? C'est que cette dame a perdu son frère pendant la Deuxième Guerre mondiale dans un camp de concentration, camp dans lequel elle n'a jamais mis les pieds parce qu'elle parle, je la cite, de tourisme morbide, quelque chose qui ne lui plaît pas beaucoup. Et cette étudiante en histoire qui travaille sur un dictionnaire biographique des 9000 déportés de France, eh bien, s'est intéressée au portrait de son frère et donc va l'accompagner en fait dans cette démarche qui consiste du coup à se rendre pour la première fois en Allemagne sur le lieu où son frère eh bien, a été tué pendant la Seconde Guerre mondiale et donc ça fait l'objet d'un petit documentaire qui est à la fois très émouvant parce qu'il y a évidemment des passages qui sont quand même assez poignants, il y a des images et surtout des phrases qu'on peut entendre qui sont assez bouleversantes, mais tout ça est aussi contrebalancé par le côté un peu punchline de Colette, en fait, qui pendant en tout cas la première partie du documentaire n'hésite pas à balancer tout ce qui lui passe par la tête avec un caractère quand même assez trempé. Et du coup, on rigole aussi, on passe du rire aux larmes, en fait, littéralement pendant ces 25 minutes. Et du coup, bah, voilà, c'est lui qui est reparti avec eh bien, la statuette du meilleur court-métrage documentaire. Donc, la vidéo est disponible sur Gameblog, elle est donc. C'est pratique en français, sous-titré en anglais, hein, puisque c'est le journal The Guardian qui l'a mise en ligne. Et on vous invite, pardon, évidemment, à aller la voir. C'est très très chouette et ça risque de vous retourner un tout petit peu.
Effectivement, donc on rappelle quand même, c'est un court-métrage qui a été commandé par Oculus, Electronic Arts et Respawn, donc qui sont les premiers, les premières sociétés de jeux vidéo à remporter un Oscar, ce qui est quand même pas mal du tout. Juste pour la petite anecdote, Colette Marin-Catherine a fêté ses 93 ans le jour de la 93e cérémonie des Oscars. Où évidemment le court-métrage a été récompensé, ce qui est quand même pas mal en termes de signe, si on peut dire. Et sa réaction, qu'elle a donnée à BFM TV, qui ont été les premiers à l'interviewer une fois qu'elle a vu la récompense, est aussi très 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 intéressante sur le personnage, sur la façon dont oui, c'est rigolo, mais c'est tout, quoi. Elle n'en dit pas plus. Vous irez voir la news.
C'est pas étonnant, quand on a vu le documentaire, qu'on voit la personnalité de Colette, sa réaction au moment de la victoire n'est absolument pas surprenante, au final.
Très bien. Bon, on va passer à quelque chose de moins réjouissant avec le fail, qui, lui, est très loin de la résistance, on va dire. C'est Electronic Arts, qui est une fois de plus au cœur d'une polémique, puisque un média canadien, CBC, pour ne pas le citer, a cette semaine récupéré un document de façon assez anonyme par un insider, quelqu'un qui se décrit comme un insider et qui a peur que si on découvre son nom, il y ait des répercussions professionnelles, et qui a donc donné à ce média un document interne de 54 pages qui date de cet été, enfin de l'été 2020, et dans lequel on peut lire en gros que Electronic Arts fait tout pour que les joueurs de FIFA se dirigent vers un seul mode. Et ce mode, vous le connaissez, c'est un mode dont on parle régulièrement sur Gameblog parce qu'il est celui qui est visé par tous les procès pour jeu d'argent, accusations de jeu de hasard sur FIFA. C'est le mode FUT, FIFA Ultimate Team, donc, dans lequel on peut dépenser plein d'argent, plein de microtransactions pour essayer de se faire des équipes balèzes. Eh bien, dans ce document, on peut lire que Texto, FUT est la pierre angulaire et nous faisons tout ce que nous pouvons pour y amener les joueurs, avec même dans le bullet point un peu plus loin, la dénomination « toutes les routes mènent au FUT », que le but c'est vraiment de faire que tout aille vers ce mode dans lequel on peut dépenser de l'argent. Et du coup, forcément, quand on lit ça, on se dit « Yé veut absolument qu'on dépense de l'argent ». Donc ça, le raccourci est assez facile et je ne vous cache pas qu'il est plutôt logique. EA a néanmoins décidé de répondre en mettant en soulignant des faits sur le fait que Electronic Arts ne poussait pas les joueurs à dépenser, que ce document, ça concernait juste la période estivale durant laquelle à chaque fois il y a énormément d'activités autour de FUT et en même temps que Electronic Arts faisait attention à ce que les joueurs, on va dire, ne fassent pas non plus, les joueurs jeunes en particulier, n'aient pas forcément accès à la possibilité de faire n'importe quoi au niveau du compte en banque. On rappelle quand même qu'il existe des cas dans le monde de gamins qui ont réussi à dépenser des milliers et des milliers d'euros dans FUT. Hein, malgré, on va dire, les mesures de précaution qui peuvent être prises par Electronic Arts. Mais bon.
Ils ne se sont pas déclarés philanthropes aussi, parce que là, vu où on en est,
écoute,
loin.
Ils peuvent toujours dire qu'ils n'encouragent pas à la dépense. Je pense que personne n'est dupe de toute manière.
Je le rapproche juste d'un dépôt de brevet dont on vous avait parlé au tout début du mois d'avril, qui était justement une fois de plus à mettre au crédit d'Electronic Arts, où ils avaient breveté des mécaniques qui visent à adapter en direct un petit peu la difficulté des jeux pour vous faire rester plus longtemps et pour vous faire rester en ligne plus longtemps, et donc in fine, si on le rapproche de ce que tu viens de nous dire, mon cher Plume, vous faire dépenser toujours plus de pépettes, quoi.
Là après, c'est pas une question là. Là, pour le coup, et eux, ils diront toujours non, ça n'a rien à voir avec les jeux de hasard, etc. Là, c'est typiquement du jeu de hasard. C'est en gros, tu joues au banco, quoi, quand tu joues à FUT, puisque c'est acheter des packs avec des cartes de joueurs à l'intérieur. Il faut que tu aies la chance d'avoir les joueurs les plus balèzes à ton tirage. Et il y avait d'ailleurs, Romain avait fait une news il y a quelques semaines à ce sujet, je crois que c'était en mars, sur un youtubeur qui avait calculé le temps et l'argent nécessaire pour se faire une grosse équipe. c'était des milliers d'euros, plus de plusieurs dizaines de milliers d'heures, si vraiment on voulait se faire cette équipe de bourrin. Non, mais Electronic Arts, de toute façon, c'est pas encore une fois, c'est pas une œuvre de charité. Ils essaient de trouver des moyens de se faire de l'argent. Et puis, voilà, quand ils se font choper, ils essaient de dire le contraire, mais ça ne sert à rien de dire le contraire. C'est une évidence.
Autant et ils rappelleront que tous les gagnants ont tenté leur chance, évidemment.
Exactement. Mmh. Johnny.
Ils ne s'étaient pas fait pécho pour la même chose sur Battlefront 2.
C'est à partir de Battlefront 2 que ça a dégénéré, en fait. C'est à ce moment-là que les gens ont considéré que. Et les législateurs de plusieurs pays ont considéré qu'il y avait des problèmes au niveau des lootbox. Du fait que y a un concept hasardeux chez Lootbox qui pousse à penser que c'est du jeu de hasard et c'est du gambling, comme on dit en anglais.
Et qui était d'ailleurs pas présent dans la version review à l'époque où Camille l'avait testé. Et on rappelle que les transactions n'avaient rien à voir entre ce qu'on a pu voir et ce qui est sorti dans le commerce après. Ça avait été aussi à l'origine de cette polémique.
Et comme d'habitude, de toute façon, les développeurs tentent des trucs, ils poussent, et puis c'est au moment où ils vont se faire, ils se font gauler que finalement, et puis ils rétropédalent. Hein, il y a plein de sociétés, il n'y a pas qu'Electronic Arts. Hein.
Pour mieux revenir à la charge après, quand même. Hein.
Voilà. Push the boundaries.
Il faut trouver, de toute façon.
Mais ça fait une dizaine d'années que le mode fut existe, je crois, dans les FIFA. Alors moi, je me rappelle avoir testé.
Depuis 2009, ouais. 2008 ou 2009. Ouais. Parce que je me souviens être allé au Canada. Pour découvrir justement le mode fut. À l'époque, c'était un Français même qui l'avait mis en place, qui s'appelle Hugues Ricourt. J'avais découvert le mode là-bas, et je crois que c'était ou alors 2007, je sais plus. En tout cas, c'est la seule fois où je suis allé chez Electronic Arts, c'était pour ça. Et ils imaginaient déjà à l'époque que ça allait être le truc qui allait driver justement le plus de monde possible. Et ça leur a donné raison. C'est-à-dire là, ça s'appelait pas fut, je crois, à l'époque, mais ça avait un autre nom. Mais c'était exactement ça. Et ils ont trouvé la bonne formule. Hein. C'est ce qui rapporte le plus de blé à FIFA.
Mais c'est bon signe finalement que les législateurs commencent à. Enfin, commencent. Ça fait quelques années là, déjà qu'on entend parler. Moi, c'est. Là, sur les podcasts depuis le début de l'année, j'ai l'impression que c'est la troisième fois qu'on parle en fail d'IA, parce qu'effectivement, il y avait cette histoire aussi de fraude en interne, des comptes frauduleux, tout ça.
Ah, donc, oui. Parce que oui, comme c'est pas du jeu d'argent.
J'ai l'impression qu'il y a une accumulation.
C'est vrai qu'on dit. IA dit que c'est pas du jeu d'argent, mais il y a quand même des employés qui se permettent de revendre des cartes à prix d'or, qui génèrent les cartes et qui les revendent à prix d'or. Donc c'est un peu. Voilà. C'est un peu une preuve, en fait, quand on dit quelque chose pareil. Mais bon. Bref, on va passer maintenant au gros du podcast, c'est-à-dire les thèmes et le débat. Et le premier thème, Philippe, c'est vers toi que je me tourne, virtuellement, parce que je ne me tourne pas du tout, en fait. Donc je regarde la caméra, et tout ce que je vois, c'est la caméra, et c'est pas toi. Et c'est un peu triste, en fait, hein, ça commence à devenir paisible. Bref, Philippe, on va parler de Nier Replicant, qui est sorti la semaine dernière sur PS4, PC et Xbox One. Nier Replicant, donc, qui est le retour de Nier, un jeu qui est sorti en 2010, à la même date que la sortie du jeu qu'on teste là. C'était le 24 avril ou 23 avril 2010.
Oui, c'est ça, à quelques jours près, ça faisait 11 ans qu'il était sorti.
Voilà. Et donc, c'est, on va dire, une seconde chance pour un jeu qui, à l'époque, a été... a vite trouvé un public, mais malheureusement qui était un peu moche, qui avait pas mal de défauts quand même.
Le public ou le jeu ?
Le jeu. Les défauts, c'est peut-être la critique.
Ça pouvait prêter à confusion.
Oui, alors comme je l'évoquais, puisque j'avais déjà pu le tester assez longuement lors d'une précédente preview il y a quelques semaines, j'avais pu y jouer à peu près 6 heures, donc là j'ai pu vraiment plonger dans le jeu pendant une quarantaine d'heures, le retourner dans tous les sens. C'est vrai qu'il y a...
C'est le jeu d'après qu'on retourne.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est... Ah oui, pardon, excuse-moi, j'ai pris ton... Excuse-moi, Johnny. Ah.
C'était le mot magique pour Trigger Johnny One.
Et donc, à l'issue de ma preview, j'avais été plutôt emballé par le jeu, mais c'est vrai que au bout de 6 heures, je n'avais vu encore, à ce moment-là, aucune nouveauté sur le plan scénaristique. Et c'est vrai que je me disais, pour l'instant, ça reste un joli jeu, c'est fluide, c'est bien, mais ça reste assez fidèle au jeu d'origine, à part cette histoire de personnages qui changent. Alors je vais rappeler très très vite fait, mais à l'époque de la sortie du jeu, donc il y avait deux versions de Nier qui étaient sorties, Nier Gestalt et Nier Replicant. Nous, on a eu le droit sur PS3 et Xbox 360 à la seule version Gestalt, dans laquelle on incarnait le père de Yona, donc Yona qui est une gamine qui est atteinte d'une maladie un peu rare appelée nécrose runique. Bon, je rentre pas dans le détail. Et dans cette version de Nier, donc qui est celle qui n'était parue qu'au Japon à l'époque en 2010, donc qui est Nier Replicant, cette fois-ci on incarne le frère de Yona. Donc voilà, au bout de 6 heures, c'est vrai que j'avais pas encore remarqué de changement dans le scénario, même enfin sachant que j'avais fait en plus le jeu original quelques mois auparavant, donc vraiment je l'avais bien en tête. Toi, je sais que Plume, tu as commencé déjà le jeu et je pense que tu peux confirmer ce que je dis par rapport au scénario. Ça change pas en tout cas.
Ah bah, je viens d'arriver à Façade. Jusque là tout ce que j'ai vu dans le jeu, donc face à de la cité qui est dans le désert, tout ce que j'ai vu, il n'y a rien qui a changé au terme scénaristique. Les choses qui sont nouvelles, je vais te laisser en parler, hein, c'est la technique déjà pour commencer, et puis le fait que on a du doublage sur tous les dialogues, ce qui quand même montre qu'il y a beaucoup plus de moyens qu'à l'époque.
Oui, non, clairement. C'était vraiment, puis c'est même l'un de mes points. Tu parles du doublage, c'est l'un de mes points forts principaux. C'est-à-dire que vraiment, à l'époque, tu avais un côté très très littéraire qu'on retrouve aussi dans ces petits passages narratifs où il y a pas d'image, on a juste du texte. Bon, ces passages-là sont toujours présents. Mais là, cette fois-ci, contrairement au jeu d'origine, tous les PNJ sont doublés. Le petit personnage du village, n'importe quel personnage de littoral ou de façade. Donc tous les PNJ sont doublés. Donc ça permet de, on va dire, d'accroître l'immersion dans l'univers du jeu. Et puis surtout, je pense notamment aux quêtes annexes qui sont pas franchement des plus mémorables dans Nier. Ça permet, on va dire, de s'impliquer davantage quand on a un personnage qui nous parle, qui nous dit bon voilà, j'ai perdu mon chien. Que vous pouvez le retrouver, c'est toujours mieux en termes d'immersion de l'entendre dire que avec les petits trémolos dans la voix, voilà, que juste lire
Qu'est-ce
le texte.
Qu'est-ce qu'il fait rire quand Philippe dit qu'il a un vieux monsieur a perdu son chien?
I lost my dog.
C'est un peu l'archétype de la quête FedEx OSEF que les Japonais chérissent depuis tellement d'années.
Sauf que le dénouement, c'est pas ce que tu crois.
Ouais, exactement. C'est ce que j'allais dire. Okay. Effectivement,
c'est The Witcher. Alors, d'accord.
Oui, non, c'est vraiment. Il y a une certaine bon, je vais pas spoiler le dénouement de la quête. Bon, en plus, elle est très simple, mais
c'est
donc voilà. Donc,
qui avait mangé le chien.
Presque. Donc voilà. Donc effectivement, la plupart des nouveaux éléments scénaristiques qui apparaissent dans ce jeu, on les retrouve seulement à partir de la deuxième partie du jeu. Alors, sans spoiler, ceux qui n'auraient jamais fait le jeu original, le jeu est divisé en deux parties qui sont, on va dire, séparées par une ellipse. Je n'en dis pas plus. Et effectivement, on a cette fameuse séquence qui était évoquée déjà dans le dernier trailer des nouveautés du jeu, intitulée La petite sirène, donc The Mermaid, donc dans lequel effectivement là on a vraiment une séquence complètement nouvelle qui se déroule sur les plages de littoral où un bateau s'est échoué. Alors j'en dis pas plus pour pas spoiler ceux qui n'auraient pas encore joué au jeu. Donc c'est une séquence qui dure à peu près 30-40 minutes, donc c'est pas super super long parce qu'il y a des petits allers-retours avant de clore la séquence et qui se termine par un boss assez impressionnant. C'est peut-être selon moi le boss le plus impressionnant du jeu. Donc on a ces petites nouveautés et cette petite nouveauté. Et les autres nouveautés scénaristiques, on les retrouve surtout à partir des second, troisième et quatrième run. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui ne sont pas familiers de l'univers de Nier ou même de Nier Automata, qui a aussi proposé ce même principe de plusieurs fins qui impliquait qu'on recommence plusieurs fois le jeu pour accéder à l'intégralité du scénario. Donc là, c'est le cas pour Nier. À la différence d'Automata, on n'est pas obligé de refaire tout le jeu pour accéder aux fins. On fait juste la deuxième partie que j'évoquais tout à l'heure. Donc voilà, et donc à partir de ces second et troisième run, effectivement, on a des petits ajouts qui permettent, on va dire, de faire passer la pilule plus facilement. C'est vrai que quand on doit recommencer le jeu, et avec toujours les mêmes scènes qu'on connaît par cœur, là, pour avoir fait l'original récemment et avoir fait Replicant, là, il y a des scènes que j'ai vues en 2-3 mois, peut-être 6-7 fois. Donc voilà, ça commence à rentrer, les dialogues, je les connais par cœur. Donc voilà. Et donc, effectivement, ces petites nouvelles scènes, alors c'est pas grand-chose, hein, c'est des petites scènes entre Emile et Kainé qui attendent au village, donc on les voit discuter un peu. C'est des petites scènes entre Devola et Popola, voilà. C'est des petites choses. On a aussi des nouveaux passages narratifs sur, qui sont consacrés à l'histoire d'Emile. Donc là, c'est plutôt, je crois, dans le troisième run. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont assez intéressantes, qui permettent de faire varier un petit peu les second et troisième run. Donc ça, c'est intéressant. Et puis bien sûr, alors je l'évoque en filigrane dans mon test pour pas spoiler, mais effectivement, une fois qu'on termine toutes les phases, il y a une petite cerise sur le gâteau. Voilà, j'en dis pas plus, mais en tout cas, ça vaut le coup. Il faut aller jusqu'au bout pour ceux qui ont le courage d'affronter la fameuse fin D dont je ne dévoile pas les conséquences. Mais voilà. Donc, on a pas mal de petites choses comme ça scénaristiquement qui sont vraiment intéressantes, qui permettent. Alors, ça ne révolutionne pas vraiment l'appréciation du jeu, mais ça permet vraiment de nourrir un petit peu de le rendre un peu plus fourni. Je pense notamment au dialogue entre Devola et Popola. Alors, sans spoiler la fin de Nier, je trouvais qu'il y avait certains éléments scénaristiques qui paraissaient un peu soudains. Je trouve que là, ça permet d'avoir un peu de contextualisation. Et, ah oui, et voilà.
Dans l'original, c'est effectivement Devola et Popola. C'est des personnages où on apprend quelque chose sur elles, mais genre d'un seul coup.
D'un seul coup,
tu peux
oui.
pas le voir venir, tu peux pas. Tu
voilà,
pas même
c'est.
Le
je trouvais ça un peu soudain dans l'original, et puis bon là, avec ces petites discussions. Bon, encore une fois, c'est 2-3 discussions, ça change pas grand chose au jeu, mais bon, c'est quand même pas mal. Ensuite, sur le plan technique, alors il y a ce qui frappe tout d'abord, donc c'est la nouvelle modélisation des visages. C'est vrai que j'avais été un peu critique au départ sur ma preview parce que je pense notamment au personnage de Kainé, qui est clairement mon personnage préféré du jeu, voire de la série Nier Automata, parce que je n'ai jamais joué au Drakengard dont sont dérivés les Nier, hein, je le rappelle. Donc je trouvais que les personnages faisaient un petit peu trop figé, il y avait un côté un peu porcelaine qui me gênait un petit peu au départ. Finalement, on s'y fait. Je trouve que c'est quand même pas mal. D'ailleurs, concernant le doublage, je trouve qu'il
c'est
est...
C'est beaucoup mieux, hein, Philippe, quand même. Hein, je suis désolé. Kainé,
oui.
Tu regardes l'original, elle est mais immonde. Le rendu, je parle du rendu hein, uniquement, il est immonde. Et le père, j'en parlais même pas à l'époque.
Oui, le père, je suis d'accord. Mais je parle... Alors, le rendu, d'un point de vue technique, je suis d'accord, mais je trouve qu'il a quand même moins de caractère. Je trouve que son visage est quand même moins... il est un peu plus lisse, un peu moins original. Mais effectivement, je suis d'accord, visuellement, c'est beaucoup plus joli, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, du doublage. Alors, je le trouve très fin. Alors, pour le coup, je l'ai fait en version anglaise parce que c'est comme ça seulement qu'était disponible le jeu à l'origine. Je crois pas que la version japonaise était disponible sur le jeu de 2010. Alors, pour le coup, on retrouve les doubleurs, ceux qu'on avait à l'époque, qui doublaient notamment Grimoire Weiss et Kainé ou Emile. Et c'est vraiment très très fidèle. On voit que les voix n'ont pas. Enfin, on a l'impression que c'est vraiment les mêmes voix qu'à l'époque. On retrouve le même côté un peu haut perché d'Emile ou le côté un peu noble de Weiss comme ça. Donc ça, pour le coup, on n'est pas perdu là-dessus pour ceux qui connaissent déjà le jeu d'origine.
Oui, donc rappelons que c'est Laura Bailey qui fait la voix de Kainé, et Laura Bailey, ouais, c'est la voix de Abby dans The Last of Us Part II, ouais. Et que comme d'habitude, elle livre une performance excellente. Kainé, qui est un personnage très spécial dans son langage, ouais. Est vraiment très très bien rendu grâce à elle.
Exactement. Et donc, du point de vue technique, toujours, donc visuellement, j'avais été aussi, c'est vrai, un poil déçu au vu des des ambitions qui étaient annoncées par les développeurs. C'est vrai que je m'attendais vraiment à une refonte graphique énorme. Alors, ça reste un très très joli remaster. Je trouve que les villes sont vraiment plus jolies, notamment façade et littoral. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage des villes. Alors, dans le jeu d'origine, c'était vraiment très très terne. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de ouais, de petits filtres qui rendaient le tout un peu terne dans le jeu de 2010. Là, vraiment, c'est joli. Il y a des couleurs, il y a de la lumière. Ça rend vraiment, vraiment bien. Pareil, en combat, il y a vraiment des effets lumineux, notamment de la magie de Kainé qu'on voyait très peu, je trouve, dans le jeu d'origine. Là, on voit vraiment des flashs de lumière bleue. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui en termes de rendu, qui est vraiment pas mal. Après, comme je disais, je trouve que les zones, on va dire, ouvertes de type la plaine septentrionale ou la plaine méridionale qui permettent de rejoindre les autres zones, puisque je le rappelle, c'est un monde ouvert, c'est un action RPG, qui permet de rejoindre les autres zones, ne sont pas formidables, c'est assez vide, ça reste encore un petit peu terne, donc voilà.
Et c'est d'ailleurs très dommage qu'il n'ait pas coupé les chargements entre chaque zone, oui, ou trouvé une solution.
Oui, je l'évoque dans
mon test.
C'est
assez inacceptable. PS4, j'imagine. Sur PS5, ouais. Les chargements restent un petit peu présents, mais sur PS4, j'imagine que ça doit être affreux.
Ouais, non, c'est assez affreux. Alors moi, j'ai qu'une PS4 fat. Je ne sais pas ce qu'il en est de la pro, mais voilà. Donc c'est vrai que c'est assez pénible. Alors après, au bout d'un moment dans le jeu, on a accès à une sorte de, enfin, un bateau qui nous permet de nous téléporter. Mais pareil, ça nous téléporte dans les villes. Mais les villes finalement ne sont pas si loin que ça, et on a quand même un téléchargement pour la téléportation. Donc c'est assez pénible. Effectivement, c'est un des gros points noirs encore techniques du jeu. Sinon, musicalement, alors je sais qu'on va pas être d'accord avec Plume, on en a parlé un tout petit peu hier. Moi, je suis vraiment convaincu par les réarrangements. Des musiques du jeu, je trouve que on entend mieux certains instruments, on entend moins les voix, effectivement. On l'évoquait hier au téléphone, Plume, on entend moins les voix, notamment dans la plaine septentrionale ou certaines, je pense aussi au château du maître de l'ombre. Effectivement, il y a certaines voix qui sont atténuées, mais je sais pas, je trouve que les musiques du jeu sont plus. Alors, elles étaient déjà extraordinaires à l'époque, mais là, je sais pas, il y a un côté, tu évoquais le côté un peu plus médiéval fantasy des musiques.
Ah ouais, je trouve qu'elles font plus beaucoup médiéval qu'auparavant, qu'il y a des temps d'arrêt ou des silences beaucoup plus présents qui, moi, me troublent pas mal, et des absences, enfin non, des réinterprétations de certaines choses. Je pense notamment sur The Lost Forest. Le morceau qu'on entend quand on se dirige vers Façade dans un petit coin là avec des chèvres, ou d'un côté c'est l'endroit où on va sonner la première fois et Façade de l'autre. Par exemple, cet endroit-là, le solo qui était un solo de cordes que j'adore, il a disparu, il a laissé sa place à un autre truc que j'aime beaucoup moins. Sur la plaine septentrionale, c'est vrai qu'on entend beaucoup moins la voix, ça me dérange un peu. Et pareil, il y a des petits temps d'arrêt où j'ai l'impression de me retrouver au milieu d'un château au 15e siècle. Avec tu vois, essayer de donner à manger à ma donzelle, enfin un truc, tu vois, complètement con. Je trouve ça fait un peu même l'album de Jean-Jacques Goldman, tu vois.
Ah oui, à ce point là
ah oui, vraiment, j'étais outré. J'étais proprement outré par certains arrangements, c'est surtout celui du littoral où j'avais l'impression d'écouter la musique de Titanic, si tu veux. Donc la façon dont c'est pas de la flûte, je connais pas tous les noms des instruments malheureusement, mais il y a un instrument style qui, je sais pas, j'arrive pas à savoir ce qu'ils ont fait, mais ils ont changé un truc et j'ai l'impression que on est beaucoup moins, je suis moins dans un rêve que je l'étais avec l'OST d'origine, en fait. Ouais. Là, j'ai vraiment l'impression dans quelque chose de plus concret et plus médiéval, plus réaliste presque.
Et ils proposent pas de passer de l'un à l'autre.
Ah non, il propose celle d'Automata, je crois, d'accord. Quand on a fini une fois, c'est ça?
Ouais. Oui, effectivement, tu fais bien de me le rappeler. Effectivement, une fois qu'on termine le jeu, donc vous voyez, on a accès aux musiques d'Automata. On peut changer dans le menu, simplement à partir du menu de l'écran titre, on peut changer par les musiques d'Automata. Alors parfois, ça colle bien, parfois c'est très étrange. Enfin, parce que vraiment, les musiques d'Automata ont un côté plus synthétique. Voilà,
et contemplative un peu aussi.
Ouais. Donc là, c'est un peu étrange, mais bon. Donc vous voyez, sur la BO, deux avis différents. C'est subjectif.
Moi, le problème, c'est que la BO, je l'ai depuis 2010 dans mon iPod, dans mon téléphone, et que je l'écoute régulièrement. Voilà. Et donc du coup, je pense que je suis trop imprégné par la BO d'origine.
Moi, pour le coup, le jeu, je l'ai découvert il y a seulement 5-6 mois, le jeu d'origine. Donc bon, voilà, c'est vrai que j'ai pas forcément le même avis. Tu voulais dire quelque chose, Johnny One, ou...
Ouais. C'était mieux avant.
Peut-être, oui. Peut-être. En tout cas, c'est mon avis pour l'instant. Après, je l'ai pas. Encore une fois, là, j'ai quoi, j'ai 7-8 heures de jeu, je pense que j'ai un peu le temps avant de voir et peut-être que j'en entendrai des choses qui me plairont un peu plus, mais c'est vrai que le niveau
non, mais tu passeras aux musiques d'Automata sur les autres runs et puis.
Et j'aime moins les musiques d'Automata que celles du Nier original. Bah oui, je suis désolé. Hein.
Mais je suis comme toi, hein. Je préfère les musiques du Nier original. Et même, je pense que Johnny Wan va partir. Je préfère le Nier original maintenant après avoir fait Automata qu'Automata. Même si j'ai bien aimé Automata, je préfère le Nier original.
Ah. Et pour quelqu'un, justement. Pardon.
Non, j'allais dire, pourquoi tu le préférerais ? Parce qu'en termes de gameplay, ok, il y a des choses qui sont quand même beaucoup moins bien que dans Nier Automata.
Oui, bien sûr. Alors oui, en termes de gameplay, Automata est bien. Mais je pense que c'est tout simplement une histoire d'attente, en fait. C'est toujours une histoire d'attente aussi. C'est vrai que je me suis lancé il y a quelques mois sur Nier en vue de faire Nier Automata, parce que Nier Automata, c'était le jeu absolu dont tout le monde parle, et voilà, il fallait absolument que je le fasse, donc je l'ai fait tout récemment. Et effectivement, j'ai découvert Nier, et j'ai été très agréablement surpris par l'univers. Je ne m'attendais pas à quelque chose aussi... Techniquement, ça ne m'a pas tant dérangé que ça. En fait, je me suis dit, Nier en 2000... Et même, en fait... Nier en 2010, ça m'a moins choqué que Nier Automata en 2017, en termes de technique. Je trouve que techniquement, Automata, alors c'est fluide et tout ça, mais visuellement, c'est pas la folie non plus tout le temps, quoi, je trouve. Oh. Et voilà. Mais bon, enfin, j'ai quand même beaucoup aimé Automata, mais c'est vrai que je m'attendais peut-être à quelque chose à plus d'un point de vue scène. Alors, j'ai fait toutes les fins d'Automata, sauf là, c'est une certaine fin que j'ai pas eu le courage de faire sur Automata pour le coup. Mais donc voilà. Après, c'est une histoire de feeling. Je préfère l'histoire peut-être plus simple d'un Nier que celle d'Automata qui parfois part dans des tours un peu. Alors, c'est intéressant, mais c'est vrai que faut suivre quand même. C'est assez faut suivre. Non, mais sur les qualités encore, enfin sur les nouveautés de ce Nier Replicant, d'un point de vue du gameplay, alors pour faire le pont avec ce qu'on est en train de dire, effectivement, ça se rapproche un peu plus de Nier Automata. Alors c'est pas aussi dynamique qu'un 2B ou un 9S. Voilà, c'est. Mais on a des petits ajouts de gameplay qui rendent la chose plus dynamique. On a le personnage qui peut contourner l'ennemi. Juste avant de prendre un coup, on peut aussi parer et ensuite attaquer une fois que, enfin contrer une fois qu'on a paré. Il y a la possibilité d'achever les ennemis une fois qu'ils sont au sol. Quoi d'autre ? On peut verrouiller aussi les ennemis. Alors ça dépend des endroits. Il y a dans la montagne des robots par exemple, ça la caméra qui fait un peu n'importe quoi si on verrouille les ennemis. Donc voilà, c'est des petites nouveautés qui rendent la chose plus agréable, manette en main, qui rendent le jeu plus fluide, plus dynamique. En plus, le jeu est plus fluide bien sûr. Alors c'était un des gros problèmes pour le coup technique du jeu original, c'est que c'est vrai que ça chaotait un petit peu. Voilà, c'était pas ultra fluide. Donc voilà, c'est de ce point de vue-là, ça plaira à ceux qui ont découvert Nier par Nier Automata. Ça permettra de redécouvrir le jeu dans de meilleures conditions pour ceux qui avaient fait le jeu d'origine. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt réussi. Donc voilà ce que je retiens en fait de ce Nier Replicant, c'est que c'est un remaster de qualité. On a vraiment quelque chose. C'est pas juste un petit fil 4K qui est passé et puis voilà, on passe à autre chose. C'est vraiment, il y a remodélisation des personnages, après on aime, on n'aime pas, réorchestration des musiques, on aime, on n'aime pas, nouvelle scène, nouvelle fin, plein de nouvelles choses voilà qui sont apparues avec ce remaster qui permettent à la fois de plaire à ceux qui n'auraient pas fait l'original, de se lancer dans les meilleures conditions, et en même temps de faire passer à la caisse ceux qui avaient déjà fait, enfin ceux qui adoraient l'original et qui en plus découvrent de nouvelles choses du point de vue scénaristique.
Très bien. Bah écoute, j'espère rejoindre ton avis quand j'aurai terminé dans environ 8 ans, le temps de pouvoir y jouer. Mais en tout cas, c'est un jeu donc qui peut être jugé comme très bon. Si on a suivi ton test, donc 8, auquel nous avons accolé un joli macaron indispensable, parce que ça reste un très bon action RPG. Ouais.
Le jeu d'origine était déjà très bon. Techniquement foireux, mais il était déjà très bon.
Ouais, très bien. Thomas, tu voulais rajouter quelque chose par rapport au fait que si quelqu'un n'a pas fait Nier Automata, il peut parfaitement se lancer dans celui-là, c'est ça ?
Oui, mais du coup, Philippe a répondu à ma question dans sa conclusion. On a communiqué par télépathie pendant que tu étais en train de cracher sur les réorchestrations. Du coup, tout va bien.
Bah, c'est vrai que pour les par rapport à Nier, parce que bon, pour le coup j'ai fait Nier avant Nier Automata, et je m'attendais à davantage de liens avec Automata. Alors il y a des liens, il y a les personnages qu'on retrouve, mais effectivement on peut tout à fait faire Nier sans avoir fait Automata, ou Automata sans avoir fait Nier, pardon, et voilà, ça pose absolument pas de problème. Il y a des liens, mais c'est pas non plus si important que ça.
Très bien, bon, et ben écoute, merci Philippe. Pour ce test donc de Nier Replicant Command que vous pouvez retrouver sur Gameblog, et puis vous pouvez nous donner votre avis aussi au passage, hein, parce que le jeu est sorti et on imagine que parmi vous il y a des fans de Nier Automata qui ont décidé de craquer pour celui-là. N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Johnny One,
oui,
maintenant qu'on va se retourner, puisqu'on va parler de une exclusivité PS5 qui sort d'ici quelques jours au moment où on enregistre, à savoir Returnal, donc jeu de Housemarque, un studio qui a beaucoup donné à Sony ces dernières années, qui était plutôt dans les jeux, on va dire,
à
budget moindre, en tout cas d'envergure moindre. Et là, avec Returnal, on change complètement de dimension, on passe même à la troisième dimension.
Et oh, on est sur du triple A.
On se lance dans un roguelike spatial très, très spécial, n'est-ce pas?
Avec toujours du shoot'em up, comme vous allez le voir. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est Returnal, c'est quoi? C'est un peu la première grosse exclue de la PS5. Elle se sera fait attendre. Elle se fait toujours attendre parce qu'elle n'est toujours pas sortie d'ailleurs. Donc 4 ou 5 mois. Hein, on a dû, parce que bon, Demon's Souls, c'était bien gentil, mais c'était un remake. Et puis les autres exclus, il n'y en avait pas.
Il y a eu Destruction All Stars.
Bugsnax aussi. Voilà.
Mais Bugsnax, c'est pas une exclusivité. Il sort sur PC aussi.
Ah oui, le fils spirituel de Knack. Enfin bon, bref, voilà.
Mais pas du tout. Mais t'as pété un câble ou quoi? Ça n'a rien à voir avec Knack.
Oh, je sais.
Mais en plus, c'est super, Bugsnax. Qu'est-ce que tu racontes?
Non, non.
Et donc, ça n'a rien à voir.
Bah oui.
Le This is for the players, il se faisait attendre, quoi. Voilà. Non, vraiment. Moi, la Play 5, ça fait un moment que je l'ai à la maison. Hein, depuis décembre, elle tournait sur les jeux Play 4 hein, jusqu'à présent. Là, ça y est, va enfin y avoir. Oui, elle le fait même très bien. Elle réduit les temps de chargement. Tout est plus beau, tout est plus fluide. C'est magnifique. Voilà.
Alors, rappelle-toi, de la PS2, quand on mettait les jeux PS1 et qu'on pouvait les lisser, on était très contents aussi. Et ça a duré 1 an et demi, 2 ans avant qu'on ait des vrais jeux.
Donc, ouais. Bien. Bon, bah là, en tout cas, donc on attendait toujours. Et là, bah, ça y est, la première exclue qui semblerait être de qualité, bah, elle arrive peut-être. Donc, ce jeu Returnal, on y a joué. On a fait les deux premiers niveaux. Pour l'instant. Mmh. Et ce qu'on en a vu, on va vous le raconter un petit peu. Alors, Returnal, c'est quoi? C'est donc un jeu de science-fiction qui suit les aventures de Selene, une astronaute, une découvreuse de planètes, spécialisée en premier contact extraterrestre, enfin bon, ce genre de truc. Et elle capte un signal de détresse et elle va se rendre sur la planète qui s'appelle... Alors attendez, j'ai un trou là d'un coup, la planète... ça me reviendra. Bref, la planète mystère. Mmh. Et malheureusement, elle n'a pas de chance parce que quand elle arrive sur la planète, bah, son vaisseau, problème moteur, pam, et elle se crache. Pas moyen de repartir, il va falloir aller mener l'enquête, savoir qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on pourra réparer le vaisseau. Donc, elle commence à se balader, elle se rend compte qu'elle est dans des ruines extraterrestres, et tout de suite, elle tombe sur un cadavre d'un membre de sa société d'exploration spatiale. Elle enquête et elle voit que, oh, c'est elle. Mon Dieu, que se passe-t-il? Elle continue un petit peu sa petite exploration, et elle tombe sur un gros monstre géant qui la tue. Et là, paf, que se passe-t-il? Bah, retour à la case départ, retour sur le site du crash. En fait, la pauvre, elle est coincée dans une boucle temporelle, où à chaque fois qu'elle va mourir, elle va revenir au tout début, sur le site du crash, au tout début du jeu. Ça va influer sur le gameplay, ça. Et ça ne va pas influer que sur le gameplay, ça va influer aussi sur l'histoire. Donc l'histoire, moi, ce que j'en ai vu pour l'instant, bah, pas grand-chose. Hein. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette petite Selene, eh ben, elle tombe sur des cadavres d'elle-même, il y a des logs audio où elle entend une autre version d'elle parler, comme si ce n'était pas la première à passer dans ce truc-là. Est-ce qu'elle est vraiment saine d'esprit? On ne sait pas trop, parce qu'elle va tomber sur une réplique de sa maison d'enfance sur la planète extraterrestre. D'ailleurs, c'est assez stylé parce que dans ces passages-là, on a droit à des petites séquences narratives où la caméra passe en vue subjective. Alors moi, ça m'a fortement fait penser à PT. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette démo.
Ça avait été montré pendant les journées. Tout le monde a pensé à PT immédiatement parce que ça ressemblait énormément à la maison.
Ah, mais je te jure, le couloir, c'est la même. Hein. C'est un couloir en L, enfin avec un meuble, avec des photos posées dessus. Mais c'est assez dingue, là. C'est une vraie inspiration, je pense. Donc, dans ces passages-là, et puis avec tous ces logs audio, on se demande si elle ne serait pas en train de devenir barge, la pauvre. Hein. Parce que ça doit quand même bien te travailler l'esprit de vivre toutes ces boucles à répétition. Donc, pour l'instant, on n'en a pas vu plus. Dans ce scénario, voilà, c'est quoi ? C'est Edge of Tomorrow, le film avec Tom Cruise, vous savez, un journaliste qu'on envoie à la guerre contre les extraterrestres. À chaque fois qu'il meurt, il revient à son point de départ. D'ailleurs, il y a pas mal de monde... Non, c'est le pitch de départ, ça. Il y a pas mal de monstres de Returnal, d'ailleurs, les monstres du début, du moins, qui s'inspirent un peu des monstres de Edge of Tomorrow, c'est-à-dire des espèces de gros canidés avec des câbles un peu partout qui sortent de la tête. Et l'autre film assez connu dans ce mode-là qu'on peut évoquer, c'est Un jour sans fin avec Bill Murray, même si là, il n'y aura pas de marmotte dans Returnal. Voilà. Donc, au niveau du scénario, on n'a pas vu grand-chose, mais franchement, sur ce qu'on a vu, c'est très accrocheur. On a vraiment, vraiment envie d'aller voir la suite. Voilà. Après, en termes de jouabilité, je vous ai dit que le scénario allait influer sur la jouabilité. Parce qu'on est sur une formule roguelite, c'est-à-dire que la pauvre, qui, quand elle meurt, elle revient au point de départ. Quand tu meurs, toi, dans le jeu, tu reviens au point de départ sur le site du crash. Même si t'étais au niveau 2 à la fin, contre le boss du niveau 2, tu reviens au tout début du niveau 1 sur le site du crash et tu perds tous tes items. Tu perds tes armes, tu perds ta monnaie, tu perds... qu'est-ce que tu perds d'autre ? Tu perds tes reliques, les reliques qui sont des buffs de ton personnage pour lui donner des petits pouvoirs en plus pour t'aider. En fait, monnaie secondaire dans le jeu qui s'appelle l'éther, voilà. Et c'est tout. Voilà.
Tu perds ta fierté, visiblement.
Et tu gardes aussi quelques items, genre à la fin du niveau 2, tu déverrouilles le grappin. Ça, le grappin, c'est un upgrade permanent. Lui, il reste. Voilà. Mais donc, c'est les seuls trucs. Tu repars vraiment de zéro à chaque fois. Et du coup, la vraie clé qui transforme alors, on est entre du roguelite et du roguelike. Je ne saurais pas vraiment le définir. C'est aussi hardcore que du roguelite. Mais il y a quand même, on repart pas totalement de zéro non plus. Ah, il y a un autre truc qu'on garde, c'est les armes, elles ont un tir secondaire, mais elles ont aussi des capacités. Par exemple, le pistolet peut passer en mode automatique. Ça, le mode automatique du pistolet, il faut le déverrouiller en jouant. Et ça, quand tu l'as déverrouillé, quand tu récupères un pistolet, il a de nouveau le mode automatique. Voilà.
Tiens, parlons des armes, Johnny. L'usage de la DualSense, il est comment dans les phases d'action?
Très très bon.
Les gâchettes,
je dis très très bon, non pas tant que ça en fait, en vrai, parce que moi j'ai des gros doigts qui sont pas très très habiles, je suis un peu une brute. Alors la DualSense, donc les vibrations, c'est un truc de ouf. Dès le début du jeu, tu t'en rends compte, il y a de la pluie qui tombe sur la combi et t'as les petits cliquetis de la pluie dans ta manette. Quand Célène est confrontée à un choix, ramasser un objet ou pas, parce que comme on va le voir après, les objets, faut pas forcément les ramasser, t'as son cœur qui bat. Qu'est-ce que je fais ? Papa. Les vibrations au combat, non, tout est stylé. Mais c'est pas les vibrations qui m'ont le plus impressionné. Le son de la manette est assez bien fichu, lui aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trucs du jeu qui sont retransmis dans le micro de la manette et c'est vraiment très, très bien fait. Le mélange entre ce qui se passe sur ta télé et ce qui se passe dans ta manette. Et en effet, tu as les gâchettes adaptatives. Alors, moi, j'étais... pas déçu, non, c'est bien, mais j'arrive pas à m'en servir en fait. En vrai, la gâchette adaptative, elle a 2 degrés. Si tu appuies tout doucement, tu vises. Donc, t'as un zoom au bout de ton canon. Et si tu appuies à fond, là, c'est le tir secondaire. Tu enclenches le tir secondaire et en cliquant sur l'autre gâchette, tu tires ton tir secondaire. Moi, j'avoue que j'arrive pas à appuyer à la moitié. Vous voyez ce que je veux dire ? J'appuie à fond. Direct.
Et du coup,
je passe toujours en... Ouais, je suis un bourrin. Donc, du coup, en fait, en vrai, moi, le jeu, je le fais uniquement en, vous savez, le tir à la lance. le tir au jugé. Je joue quasiment que comme ça parce que j'arrive pas vraiment à me mettre avec le petit zoom. C'est pas vraiment un handicap. Et du coup, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on peut désactiver ce double degré de la gâchette adaptative, c'est-à-dire qu'on peut laisser uniquement le zoom sur L2 et le tir secondaire sur L1. Mais malheureusement, si on fait ça, ça désactive l'adaptatif, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de résistance dans les gâchettes. Si on veut avoir la résistance dans les gâchettes, on est obligé de faire ce mode adaptatif qui se fait en deux fois. Tiens, d'ailleurs, c'est un petit aparté sur tous les jeux PS5 que j'ai pu tester jusqu'à présent, à part dans Astro Playroom, les gâchettes adaptatives, pour l'instant, c'est pas ça. Il faut que les devs apprennent à les configurer un peu mieux. Là, par exemple, un mode alternatif où même en déplaçant le tir, enfin la visée sur deux boutons différents, où on pourrait quand même avoir de l'adaptatif un peu, bah là non, ça n'existe pas. C'est soit tu fais le mode double, soit t'as rien du tout. Voilà. Peut-être qu'on pourrait améliorer un peu le développement de tout ça, mais bon, on est au début, peut-être que ce genre de truc arrivera après.
Alors, regardez, ouais, je pense pas que ce soit une question d'apprentissage, hein. Je pense qu'ils n'ont pas le temps pour l'instant de poser cette fonctionnalité.
Je pense pas. Regardez le son dans la manette, hein. On l'a eu sur PS4, il n'y a que depuis la PS5 que ça fonctionne. Hein. Voilà, clairement. Les jeux PS4, moi je pourrais vous en citer à peu près aucun où le son dans le micro était cool. Là, à peu près tous les jeux PS5 que j'ai testés, les fonctionnalités micro étaient plutôt bien gérées. Voilà.
Il faut dire que là, ça va de pair avec les vibrations et que tout a été bien coordonné entre les deux et que le son qui sort de la DualSense est autrement plus clair que ce qu'on a sur une manette PS4.
Oh, oui. Tout à fait. Non, donc la DualSense, ouais, c'est pas mal son utilisation en jeu. C'est pas parfait pour l'instant, mais franchement, c'est assez convaincant. Vibration, gâchette adaptative et son qui sort du micro. Je reviens donc un petit peu sur la formule roguelite du titre. Donc ouais, je vous le disais, tu recommences depuis le début. Donc tu rages de ouf, en fait, en vrai. Parce que tu viens de passer une heure, voire deux même, parce que si t'es dans le niveau 2, en fait, la technique, quand tu dois aller battre le boss du niveau 2, tu t'es fait tuer par le boss du niveau 2, tu dois repartir au tout début du jeu, bah, la technique, c'est quoi? C'est d'aller farmer un peu les items à droite à gauche, de te refaire, en fait, tout le niveau 1, tu te le refais, en fait, en vrai, en entier, pour dégoter les améliorations, parce que les améliorations, c'est quoi? C'est des buffs. Voilà, il y en a qui sont très puissants, par exemple, je suis tombé sur un qui te rend pas vraiment invincible, mais quand ta combinaison est dans le rouge, elle se répare toute seule. Oh, génial, extraordinaire. La vie dans ce jeu, il y en a pas beaucoup, hein, des barres de vie. Voilà, et il faut vraiment la chérir comme si c'était ton bien le plus précieux sur cette terre.
Et les ennemis sont très méchants?
Les ennemis, ils peuvent être très violents et retors, mais ça, pareil, t'apprends, en fait. T'apprends à comment est-ce que tu vas pouvoir les gérer. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans la partie gameplay.
On va pas s'éterniser non plus, hein, Johnny. Hein, c'est la preview, hein, ne fais pas le test. Hein. Et en plus, Thomas est pressé, donc j'en rajoute. Donc, n'en disons pas trop non plus.
Non. Donc, au niveau roguelite, en fait, tu vas rager parce que tu repars au tout début du jeu à chaque fois. Et puis, en plus, tu as passé une heure et demie à reconstruire un personnage, à te refaire un run. Et tu arrives contre le boss et, en fait, dans la salle d'avant, tu t'es fait défoncer par un mob. C'est la catastrophe. Voilà. Donc là-dessus, l'aspect roguelite, il est intraitable, vraiment intraitable. Et je pense que ça va faire rager pas mal de monde. Et en plus, donc les combats, c'est quoi? Donc c'est du TPS. Hein, on est sur un jeu de shoot où le personnage a un dash pour esquiver un peu les boulettes qui vont arriver sur la tête. Et là, on retrouve un petit peu la marque. Housemarque, désolé, pour dans le jeu. Housemarque, en fait, c'est quoi? C'est des mecs qui font depuis 25 ans du shoot 'em up. Voilà. Returnal, c'est un shoot 'em up. Voilà. Les ennemis te crachent des nuages de boulettes à la tronche en mode bullet hell de chez Cave. Il y en a de toutes les couleurs, des boulettes roses, des boulettes violettes, des boulettes bleues qui t'arrivent vers toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu les esquives avec ton dash tout en canardant de l'autre côté. C'est vraiment des mécaniques de TPS qui sont très liées à ce qu'on peut retrouver dans des shoot 'em up. Voilà. Et donc, la stratégie, tu me parlais des ennemis, Thomas, tout à l'heure, bah, quand tu vas avoir un ennemi qui va arriver devant toi, tu vas essayer de l'esquiver tout en tirant, et puis tu vas adapter ta stratégie, en fait, en fonction de ce qui se trouve en face de toi, tout simplement. Voilà. Ça marche plutôt pas mal, mais ça demande une concentration de tous les instants, et tu n'as quasiment pas le droit au moindre faux pas.
Comme est-ce que c'est faire, est-ce que tu gardes de la lisibilité sur l'action, parce que le principe des boulettes des Danmaku, c'est justement d'être très visible à l'écran. Est-ce que là, oui, tu gardes cette lisibilité
quand, les ennemis que tu vas rencontrer, tu vas assez vite apprendre leur pattern d'attaque et tout, et tu vas te faire avoir les deux trois premières fois, et quand on aura eu marre, tu vas dire eh là, vas-y, c'est bon, lui, tu vas voir, il va pas me la refaire à l'envers. Tu restes bien concentré et ça marche, tu arrives à établir ta stratégie en temps réel. Et ça m'a fait penser un petit peu à ce que tu peux ressentir, par exemple, dans un degré moindre, dans Doom, les nouveaux Doom, par exemple, qui sont très arcade, très stratégie dans les affrontements, où il faut que tu prennes des décisions en temps réel. Ouah, qu'est-ce que je fais vite. Bah là, tu retrouves un petit peu cet aspect-là. Et c'est vraiment, dans les combats, sur ce que j'en ai vu pour l'instant, du shoot'em up. Voilà, pur et dur.
Ok, voilà. Très bien. Bon, on va pas en dévoiler trop.
Non.
Parce que là, c'est le moment
sur la technique.
T'es parti pour nous faire le test. Là j'insiste. oui, la technique. Un mot rapide sur la technique avant qu'on passe.
C'est très beau. Ça tourne en 60 fps. Les effets de lumière sont très jolis. Les deux niveaux qu'on a vus étaient assez différents l'un de l'autre. En termes de design, c'est plutôt cool. Et bah, on en prend plein les mirettes. Voilà.
Ça fait grave envie.
Ouais. Les captures qui donnent vraiment envie, hein. Les captures de ton test, de ton.
Ouais, puis le principe ouais. TPS avec des mécaniques de Danmaku et tout. Bon, alors le côté roguelite a l'air de faire rager, mais franchement, je pourrais être très client.
Eh ben, on vérifiera ça dans quelques jours, hein, puisqu'il arrive le 30 avril sur PS5.
Le test devrait pas tarder à arriver lui aussi.
Il y a des chances que le test arrive. Eh ben écoute, c'est encore mieux. Donc voilà, si vous écoutez ce podcast après la parution, vous inquiétez pas, on reparlera de Returnal plus tard peut-être. Voilà, merci Johnny pour ses impressions donc sur Returnal, et on va passer donc pour finir au débat de la semaine. Et le débat de la semaine, eh ben il n'était pas trop difficile à trouver parce que CD Projekt Red a encore fait parler de lui cette semaine, hein, le studio polonais à qui on doit la saga The Witcher. Saga The Witcher qui est toujours à plus de 50 millions d'exemplaires, mais sauf que le troisième épisode vient de dépasser les 30 millions. Donc il a pris encore 2 millions d'exemplaires en 2020, ce qui est quand même assez gigantesque. Il y a plein de jeux qui aimeraient avoir ça plus de 6 ans après leur sortie. Donc, voilà.
Il a profité de la sortie de la série fin 2019 aussi. Il y a eu un gros...
Ouais, ça a joué. Henri Cavill a bien boosté les ventes de The Witcher 3. Et donc cette semaine, CD Projekt, le groupe complet, a balancé ses résultats financiers pour l'année fiscale 2020. Pardon. Et donc, ce qu'on a pu apprendre en particulier par rapport à ça, c'est que The Witcher se porte bien, mais ce n'est pas tout. Cyberpunk aussi s'est bien porté, mine de rien, en 2020, puisqu'on a découvert, grâce à ce report de CD Projekt, eh bien, qu'il s'était vendu à plus de 13 millions d'exemplaires, 13,7 millions d'exemplaires en 2020, sachant qu'il y avait eu 8 millions de précommandes au passage. Ça fait quand même un beau chiffre, bien costaud de la part. Forcément, oui, merci les précommandes. On a quand même découvert au passage, parce que pour toutes les personnes qui disaient oui, mais non, mais le gros, ça va être sur PS4, et on en connaît, finalement, non. Les joueurs ont l'air d'être au courant que c'est sur PC que ça se passe en particulier, puisque 56% des ventes ont été réalisées sur PC et Stadia. Donc on imagine 55,99 sur PC et 0,1 sur Stadia, même si la version Stadia était louée pour le fait qu'elle était beaucoup moins buggée que les versions consoles et qu'elle tournait plutôt pas mal. Et la version PS4, elle représentait 24% et la version Xbox One, 17% en tout. Dans ce même rapport, et après dans les appels aux investisseurs, CD Projekt explique que il y a 30 000 copies du jeu donc, qui a été remboursé directement grâce au programme Help Me Refund. Donc ça représente environ 1,2 milliard de zloty donc ont été je suis en train de dire complètement autre chose. Donc ça fait pas grand chose en fait, ça fait quelques millions seulement qui ont été remboursés, sachant que beaucoup plus en tout si on compte les revendeurs tiers, puisque sur un jeu qui a rapporté énormément, ça fait quand même un petit caillou dans la godasse, mine de rien. Et c'est là qu'on se demande, finalement, messieurs, est-ce que Cyberpunk CD Projekt a encore raison d'insister avec.
Ah bah, vu le temps qu'ils ont passé dessus, je pense que de toute façon, ils n'ont pas particulièrement le choix. C'est pas comme si ils avaient la capacité de dire, écoutez, ça fait des années qu'on bosse là-dessus, on a plein de plans plus ou moins sûrs pour l'avenir avec des modes dans tous les sens, enfin, des modes de jeu, multi, etc. Ça paraît compliqué de tourner la page comme ça aussi rapidement.
Je pense qu'il y a, d'autant que si on se réfère quand même aux ventes, effectivement, tu te dis, bah oui, ils ont raison. Et puis que tu te rends compte quand même que le jeu sur PC a eu des critiques et des avis de joueurs qui sont beaucoup moins violents, et il faut dire que la violence était méritée, sur console.
Oui, parce que le jeu tourne effectivement très bien sur PC, et je pense qu'à terme, moi j'ai choisi de ne pas le faire maintenant, justement parce que j'ai envie de passer un bon moment dessus, donc je vais attendre des mois, si ce n'est plus, pour que tout soit patché et qu'il tourne royalement bien sur les consoles de nouvelle génération. Mais je pense qu'ils ont une feuille de route qui est de toute façon déjà un petit peu établie, et le fait est que tu viens de rappeler les très bonnes ventes du jeu, qui en plus souffrent de cette espèce de bad buzz qui a quand même entouré sa sortie. Ça va progressivement se résorber tout ça, donc ça peut très bien devenir un autre long seller, tout comme The Witcher 3, s'ils finissent par véritablement corriger leur copie. Et donc, ça peut continuer à faire les affaires de CD Projekt, qui, de toute façon, déjà en a vendu un nombre assez impressionnant. En même temps, l'attente était quand même assez forte. Et le problème, c'est que, de mon point de vue, les chiffres du coup leur donnent raison sur à peu près tous les points, y compris le bullshit, les équipes sous pression et le fait de sortir le jeu trop tôt alors qu'il était clairement pas prêt, en tout cas pour les versions console. Donc on va dire que ça, malheureusement, c'est un triste exemple et un exemple supplémentaire du marché qui se fiche complètement de savoir comment ça se passe derrière. Pour moi, le problème, il est plus là en fait, et j'ai comme l'impression que leurs méthodes de management ne vont pas changer pour l'entretien et le développement des modes ultérieurs de Cyberpunk 2077, puisque le pognon rentre, donc où est le problème ?
Philippe, t'as l'air un petit peu moins convaincu par les propos.
J'acquiesce à ce que dit Thomas, mais en fait c'est juste la réflexion que je me fais sur à chaque fois. C'est vrai que tous les ans en fait il y a des bad buzz. Alors effectivement le méga gros bad buzz l'année dernière, c'était Cyberpunk 2077, mais en fait de plus en plus j'essaie de me méfier, on va dire, des effets de loupe qui sont provoqués par les bad buzz. C'est vrai que souvent on se rend compte très vite que les bad buzz sont souvent le résultat d'une certaine partie de la communauté de joueurs qui ne représente pas l'ensemble des joueurs, ou en tout cas qui représente que une minorité. Alors effectivement, j'ai pas eu l'occasion. Je suis comme toi, Thomas. J'ai pas encore touché parce que j'ai un PC qui fait tourner Lemmings et j'ai qu'une PS4 fat. Donc voilà.
Hashtag je compatis.
Voilà, donc j'attends de l'avoir sur.
C'est un très bon jeu, Lemmings.
Ah non, mais c'est génial, hein. C'est, c'est créateur de GTA 8, enfin bref. Et donc, je me méfie juste en fait de l'effet loop. Je pense que ça fait un plus gros. Ça laisse une plus grosse impression que ce que ça ne l'est réellement. Et je pense qu'il n'y a pas tant de. Enfin, je pense que je pense que la plupart des joueurs qui ont joué au jeu, contrairement à ce que peut laisser croire le méta critique joueur, où là t'as des hordes de, j'imagine, de rageux, même sur les versions PC, le méta critique joueur PC, il est pas si fou que ça pour un jeu qui a l'air exceptionnel, je peux dire que ça. Je pense qu'il faut se méfier de cet effet de loupe. Après, effectivement, je te rejoins, Thomas, clairement, le choix d'avoir sorti la version en l'état, les versions console en l'état. Alors je sais que il y a eu des gros patchs tout récemment sur Pro et Series X, il me semble, sur ces versions-là, mais apparemment sur Fat, c'est toujours l'enfer. Voilà, je pense en fait, il faut avoir ces deux positions-là. Le bad buzz, il est alimenté par cet effet de loupe des médias vidéoludiques, par les joueurs qui commentent là-dessus, etc. Et en même temps, effectivement, alors j'aime pas dire mérité, parce que c'est, enfin, en fait ce qui est assez renversant littéralement, c'est que on a quand même un studio, c'est des projets qui jouissaient d'une image mais impeccable avant octobre-novembre, quoi. Mais vraiment, enfin, t'as From Software, c'est des projets, et c'est les deux studios qui sont qui jouissaient d'une image assez folle. Ouais, qui était intouchable. Et puis là, d'un seul coup, en 2-3 semaines, mais ça s'est complètement renversé. C'est des projets sales pourris, machin. Vous écoutez pas les. Enfin bref. C'est voilà, j'essaie de voilà de prendre du recul par rapport à ça et me dire que bon, effectivement, il y a eu très mauvais choix. Ils auraient
mais
pas
est-ce
dû
que ça va laisser des traces, tu vois. C'est la question que je me pose. Que question... Ça va pas passer.
C'est la question en fait de cette dernière partie de podcast. C'est est-ce qu'ils peuvent se redresser après un épisode comme celui de Cyberpunk 2077?
Bah, regarde les développeurs, j'ai oublié le nom, les développeurs de No Man's Sky.
Oui, Hello Games, oui.
Hello Games, voilà, et c'est vrai qu'au début, pareil, ils ont pris un bad buzz monstrueux à la sortie du jeu, et puis au fil du temps, alors c'est pas le même, alors c'est pas les mêmes budgets, c'est pas le même, voilà, c'est pas la même aura du studio, mais bon, on peut toujours s'en sortir, et puis je pourrais te sortir l'exemple inverse avec BioWare et Anthem, qui était quasiment mort-né et qui va plus renaître, quoi, donc... Donc voilà, c'est encore finalement un peu tôt. C'est vrai que le jeu n'est sorti finalement qu'il y a 5-6 mois. Ils sont encore en train de plancher sur les versions next-gen. Je ne sais pas si elles sont déjà datées. Enfin, j'imagine pour la fin d'année.
Deuxième moitié. La version next-gen de The Witcher 3, c'est deuxième moitié de 2020.
Pour être très terre-à-terre, on sait qu'ils ont... Enfin, en tout cas, un des discours qui martelait pendant le développement de Cyberpunk, c'était qu'ils étaient assis sur un trésor de guerre et qu'en gros, les mecs se croyaient un petit peu intouchables parce qu'ils avaient des réserves de cash assez importantes. Là, a priori, ça continue. Ils ont clôturé un exercice fiscal qui marche quand même super bien. Donc, l'indépendance qu'ils avaient avant, je ne vois pas pourquoi ils ne l'auraient plus à cause de cette polémique. En tout cas, à moyen terme, ils peuvent continuer à avoir des choix assez marqués et à faire un petit peu ce qu'ils veulent, je pense, même s'il y aura forcément le point de vue des actionnaires qui ont dû tirer un peu la tronche à l'automne dernier. Mais s'ils avaient une indépendance assez forte il y a encore un an, je vois mal la situation véritablement changer, à moins qu'il y ait une réorganisation encore plus importante de la direction de CD Projekt, parce qu'on sait qu'il y a des membres éminents qui sont partis pendant le développement de Cyberpunk. On comprend aussi a posteriori un peu pourquoi. Mais voilà, moi je les imagine plutôt faire un peu le dos rond, laisser passer véritablement la polémique et peut-être revenir d'ailleurs au moment du lancement des versions next-gen, qu'on espère pour le coup fonctionner du feu de Dieu, parce que là, sinon, les mecs retendront un bâton pour se faire battre une deuxième fois. Et les Anglais disent fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. À un moment donné, il faudra aussi... se rendre compte de ce qui se passe quand même et que s'il y a besoin de changer de stratégie de leur côté, ils le fassent parce qu'il ne faut pas se foutre de la gueule du monde trop longtemps non plus. Quoi.
Johnny, on t'a pas entendu sur le sujet.
Non, alors moi je suis attristé par le destin de ce jeu. Je pense qu'il est sorti beaucoup trop tôt. Je pense même qu'il n'aurait pas dû sortir sur PS4 et Xbox One, mais bon, money is money. Comme Thomas, moi j'attendrai une version Play 5 pour y jouer. J'attendrai même un peu plus longtemps, j'attendrai une version Play 5 GOTY. Avec toutes les extensions et tutti quanti, voilà. J'ai déjà attendu 6 mois, je peux attendre 2 ans de plus. Hein. Puis des jeux à faire, j'en ai déjà d'autres. Voilà. Mais non, il est sur la to-do list. Je pense que le même si c'est vrai qu'ils vont pâtir d'une certaine mauvaise image à cause de ce qui s'est passé avec ce jeu, je ne fais pas trop de soucis pour CD Projekt Red et je pense que même le Witcher 4 ou le Cyberpunk 2 ou je ne sais pas ce qui arrivera après devrait faire parler de lui encore une fois. Voilà. Je ne me fais pas trop de soucis pour eux.
Dans des bonnes conditions, tu veux dire, cette fois.
Ouais. J'espère qu'ils apprendront de leurs erreurs du passé. Voilà.
C'est ce qu'ils ont dit pendant le rapport financier. Voilà. Qu'ils avaient,
faut le faire maintenant.
Qu'ils avaient une leçon à tirer de ça.
Ah bah oui, hein.
Je suis assez d'accord avec Johnny sur un point, c'est qu'il y a l'aura de ces licences. Et pour faire un parallèle hasardeux, je pense qu'il y a un petit côté Rockstar qui commence à teaser Red Dead Redemption 2 il y a quelques années, ça fait un foin pas possible. Je pense que le jour où CD Projekt commence du bout des lèvres à évoquer The Witcher 4, une bonne partie de la communauté des joueurs va reprendre la route de la hype et rapidement oublier ce qui s'est passé avec Cyberpunk en se disant voilà, c'est arrivé une fois, ça n'arrivera pas une deuxième, et puis la licence est trop stratégique pour eux, etc. etc. Je pense qu'il y aura, il y a pas mal de solutions pour qu'eux se débarrassent de cette mauvaise image. Publiquement, en tout cas, parce que en interne, c'est évidemment autre chose, et c'est ce qui devrait plus nous préoccuper, d'ailleurs, je trouve, en tant que consommateur.
Tenez, on est désolé, on vous offre notre prochain jeu. Ce serait pas beau, ça
Réveille-toi, Johnny. Réveille-toi, c'est fini, la sieste.
Ouais, ou alors, tu sais, The Witcher 3 sur Game Pass, c'est vite arrivé. Hein. Même pas sur Game Pass, sur PlayStation Plus ou autre, tu vois. Et la version optimisée, et puis voilà, on n'en parle plus. Ce sera réglé. Mais enfin bon, on en reparlera une autre fois. C'est ainsi que se termine le podcast 565. Merci à vous, Johnny, Thomas, Philippe, d'avoir participé à ce podcast. Merci Poufy, comme d'habitude, l'homme qui pouffait en coulisses et qui s'occupait du son. Merci à vous de votre fidélité, de nous avoir suivis pour cette émission. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. D'ici là, on espère que vous allez bien tout simplement faire attention à vous. Tout simplement. Bisous, bisous. Ciao.
Bisous.
Ciao.